Âme d'Amsterdam, suite. Amsterdam, ville-monde. Amsterdam, magasin de l'univers, écrivait Voltaire, avec ses 1000 bateaux dans le port. Et notre voyage second commence avec l'évocation des mers jusqu'en Inde et l'ailleurs. Ville-monde, Amsterdam, seconde escale. Bon voyage sur France Culture sans frontières.
Le journal est français. Le journaliste français. Est-ce qu'on vous fait pas? Entrez. Jij komt naar beneden? Ja. Alright. Oké. En via ons in een stand.
D'accord. En nous restons pas dans le musée ou là?
Ici, je pense. Oui. Je vais laisser les manteaux quelque part ici.
Comment on appelle ça l'arbre généalogique?
C'est l'arbre généalogique, voilà, de la famille Van Loon.
Oui.
Et alors le fondateur de la Compagnie des Indes, c'est ce Willem-là.
Hein. Oui, c'est ça, oui.
1536,
oui,
oui, c'est ça. 1618.
Oui.
Il a eu oui, 10, c'est ça. Il a eu 10 enfants, monsieur.
Vous avez compté?
Ils sont numérotés.
Oui, c'est vrai, il y en a eu d'autres qui en ont eu 10. Ça, c'était pas exceptionnel, parce qu'il y en avait pas mal qui survivaient pas. Moi, je suis complètement en bas. Versteig, je dois être complètement au bout, même pas, peut-être pas. Alors, attends, j'existe pas.
Ah, bah si.
Ah oui, je suis par là. Voilà, donc je suis là. Philippa, Catherine Van Loon. C'est cette branche-là qui a survécu. Je suis la dernière de dernière de chez dernière. Parce que, en fait, mon père était le dernier mâle ou homme de la famille. Hein, avec tous ses descendants, 10 enfants.
Il
n'y en a plus du tout.
Moritz Van Loon.
Oui, Moritz Van Loon.
Il a son portrait là?
Voilà, ça c'est mon père, effectivement. Qui est... Donc, peint jeune homme à droite et monsieur d'un certain âge assis sur le canapé du salon bleu, vous voyez là à gauche.
Oui. Amsterdam, één stad, één wereld.
Ville-monde, Amsterdam. L'écluse du cul de la grenouille. Olivier Chaumel, Rafik Zénine.
Philippa Van Loon, on est au musée Van Loon. Au centre d'Amsterdam, sur un gracieux canal qui s'appelle Keizersgracht. Vous êtes issu de la famille Van Loon, dont un membre lointain au début du XVIIe siècle a fondé la VOC, Vereenigde Oost-Indische Compagnie, c'est-à-dire la Compagnie des Indes orientales hollandaises. On peut dire que.
C'était un groupe à le fonder, hein. C'était oui. Pas le seul. Fondateurs, ils étaient plusieurs membres.
On peut dire que la ville doit sa beauté et sa prospérité à la VOC.
Oui, exact. Toute la Hollande, hein. Ouais. Presque. Enfin, à l'époque, c'était quand même divisé. Hein. Il y avait le VOC de Rotterdam, il y avait le VOC d'Amsterdam. Et d'ailleurs, ils ont commencé à Rotterdam. Et ils ont,
parce qu'on partait déménagé. De plusieurs ports. Aussi.
Exact. C'était par rapport au port, par rapport au, enfin voilà, au bateau, l'assurance du bateau, le bateau allait transporter, ramener, etc. Oui. Mais eux partaient pas. C'était la particularité. Ils restaient bien au chaud. Enfin, au chaud, c'est encore relatif parce qu'il faisait plus chaud là-bas dans les îles. Mais voilà, ils prenaient pas le risque de voyager eux-mêmes, quoi. C'était pas des hommes de la mer, comme on pourrait croire.
Ils recevaient et distribuaient les dividendes.
Exact. C'était vraiment des hommes d'affaires. C'était les premières multinationales, comme on appelle ça, les grandes entreprises, quoi. Oui. Oui, ils ont ramené de tas de choses. De la porcelaine, des soieries. Ils se servaient, hein, tout ce qu'ils trouvaient, qu'ils pouvaient ramener pour vendre. Il le ramenait, ça c'est clair.
Vous auriez aimé vivre au XVIIe ou au XVIIIe siècle?
Non, hein, pas du tout. Non, parce que moi j'adore le chauffage central. Donc, heureusement que, voilà, heureusement que j'habite, que je vis au 21e siècle.
Actueel rekening met de gereserveerde zitplaatsen van de internationale reizigers. Wilt u uw fiets of vouwfiets meenemen, dan verzoeken wij u deze in het fietsgedeelte van rijtuig 4 te plaatsen, achter in de trein. Meine Damen und Herren, der MCT nach Osnabrück, Hannover und Berlin wird abfahren aus Gleis 10B. Dieser Zugverkehr wurde in umgekehrter Reihenfolge. Die erste Klasse befindet sich an der Spitze des Zuges. Ladies and gentlemen, the Intercity to Osnabrück, Hannover and Berlin will depart from platform.
Il paraît que les Hollandais sont très amateurs de proverbes. Ils disent par exemple, pour caractériser entre elles leur grande ville, qu'on travaille à Rotterdam, qu'on épargne à La Haye et qu'on dépense à Amsterdam. La belle Amsterdam est considérée, c'est connu, comme une championne de la tolérance, voire de la permissivité. Une cité à la fois délurée et sérieuse, quiète et trépidante. C'est ici qu'on imprimait autrefois les ouvrages des auteurs que leur pays d'origine, la France en tête, considérait comme licencieux ou subversifs. Amsterdam est aujourd'hui le paradis des jeunes Européens désireux de goûter l'ivresse cannabique en toute impunité. Il cause quelques tapages, mais le désordre reste circonscrit à une toute petite partie du centre historique. La vérité est qu'ils craignent de trop s'éloigner de leur auberge. Un canal ressemble tellement à un autre canal, et la nuit, dans un état second, on a tout fait de s'égarer dans ce ravissant labyrinthe. On n'a jamais fait de misère aux Juifs à Amsterdam, sauf au temps nazi. Les homosexuels s'affichent sans susciter la réprobation de quiconque, mis à part que parfois ils se font démonter le portrait. Autre léger doute, le Parti pour la liberté de Geert Wilders, en réalité un mouvement d'extrême droite xénophobe, est politiquement très prospère. La tolérance est ici une sorte de dogme primordial, certes, mais bien fragile. Fouad Laroui est essayiste, poète et romancier, né au Maroc. Il est passé par Amsterdam il y a 25 ans et il y est resté depuis. Il observe attentivement sa ville et la société néerlandaise et nous invite au musée des Tropiques, autrefois musée colonial.
J'ai vu comme c'est beau. J'aime bien ce musée pour une raison simple, c'est que non seulement d'abord j'habite juste à côté, mais c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que tout le monde va au Rijksmuseum, c'est tout à fait normal. C'est l'un des musées les plus riches du monde. On va au Van Gogh, on va au musée d'art contemporain, et on oublie qu'il y a ce musée qui représente une part de l'histoire du pays.
Qui est un bâtiment de la même époque, à peu
qui
près.
Qui est un bâtiment de la même époque, je crois 19e siècle, quelque chose, fin 19e ou début 20e. En tout cas, qui est très beau et qui, en plus, renferme donc une partie du passé colonial des Pays-Bas. On l'oublie, mais les Pays-Bas ont un passé colonial assez riche. Ils auraient pu avoir... Ils ont eu New York, vous le savez, ils ont eu le Brésil, ils ont eu l'Australie, la Tasmanie, ils ont perdu tout ça, mais ils ont gardé l'Indonésie.
Il en reste un tout petit peu au-dessus du Venezuela, je crois.
Oui, effectivement, les petites îles, enfin, Curaçao, Aruba, oui, c'est exact. Mais surtout, ils avaient l'Indonésie. Ils sont restés plus de 3 siècles en Indonésie. Et donc, ils ont décidé à un certain moment qu'il fallait garder cette mémoire du passé colonial. Et donc, ils l'ont mise ici, dans ce musée. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, les rapports que les Pays-Bas ont avec le reste du monde passent par des pays qu'ils n'ont jamais colonisés. Et c'est pour ça, c'est un peu paradoxal, mais dans ce musée des Tropiques, l'exposition phare en ce moment s'appelle Zizo Marocco.
Ce qui veut dire ?
C'est-à-dire, regarde, ou quelque chose comme ça. Regarde le Maroc, ou regarde, ça, c'est le Maroc. Enfin, comme une sorte de langage des jeunes. Mais c'est très étonnant parce que donc dans ce musée consacré au passé colonial néerlandais, ils ont décidé, je trouve que c'est extraordinaire, ils ont décidé de mettre à l'honneur le Maroc parce que l'une des premières communautés immigrées, c'est les Marocains, mais leurs enfants, c'est plutôt leurs enfants et les petits camarades de leurs enfants que le musée vise. Et en mettant en valeur le pays d'origine des parents des petits Marocains, c'est une bonne chose pour eux et pour leurs petits camarades. Je trouve que c'est une idée très généreuse et donc qui va au-delà de ce qui était l'objectif du musée des Tropiques d'Amsterdam.
C'est une grande nef. A priori, c'est construit en béton avec des arcs en plein cintre Alors, de grande hauteur, une vingtaine de mètres.
Ça me fait penser à la gare de Limoges. Je ne sais pas pourquoi. Je vous assure, elle ressemble à
ça. Il y a un peu de ça, en effet.
La gare de Limoges, parce que c'est une espèce de grande arche comme ça. Ça ressemble, non mais on dirait un hall de gare. Mais dans le bon sens, c'est très beau. Moi, j'aime bien ce bâtiment. Il est beau, il est, comment peut-on dire, il est majestueux. Et je ne sais pas si l'idée était aussi de créer un rapport, de créer un peu d'exotisme. Mais bon, il y a, je ne sais pas, vous voyez ce genre de colonnes ici? Vous voyez, c'est des petits bateaux qui vont très loin. Et puis, on voit des indigènes qui sont en train de, je ne sais pas, grimper à des palmiers ou un truc comme ça. Donc, il y a cette idée de, quand même de créer un certain sentiment d'exotisme, je crois, chez le visiteur. Tout en étant, en fait, dans le style lui-même, je ne saurais même pas qualifier ce style, mais c'est le style, donc, gare de Limoges, on va dire ça comme ça.
Néo-gare de Limoges.
Néo-gare de Limoges. Donc là, on se dirige vers... Maar we gaan beginnen met iets anders. Wat is je naam eigenlijk, dat als ik jou moet roepen? Chrissy.
Chrissy.
Oké. Oui, donc on se dirige vers le premier étage, et là qui est consacré finalement à l'Orient, enfin à l'Asie en fait, art, culture et colonisation. Et colonialisme, c'est même comme ça que ça s'appelle ici.
Est-ce qu'il y a aux Pays-Bas là, un complexe comparable vis-à-vis du passé colonial, comparable à celui qu'on peut soupçonner d'exister en France?
Je ne crois pas. Ça fait 25 ans que j'habite ici. Bon, j'ai vécu en France. Je crois bien connaître la France. Il n'y a pas eu, pour parler très franchement, il n'y a pas eu de guerre d'Algérie. C'est-à-dire, il y a eu une décolonisation qui se fait un peu dans la douleur, mais celle de l'Indonésie en 1947. Mais vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Indonésie était occupée par les Japonais. Et quand les Néerlandais ont voulu reprendre l'Indonésie, qui était à eux depuis 350 ans, les Indonésiens ont dit non, merci. Les Japonais s'en vont, c'est pas pour que vous reveniez. Alors, il y a eu ce qu'on appelle, et là, c'est le parallèle avec l'histoire coloniale française, est intéressant. Il y a eu ce qu'on appelle, ils ont pas voulu parler de guerre d'Indonésie. Ils ont appelé ça Polisionel Aksi, en néerlandais, c'est-à-dire des actions de police. C'est-à-dire de la même façon qu'on n'a jamais voulu parler de guerre d'Algérie jusqu'à très récemment.
Mais d'opération de maintien de l'ordre.
Mais c'est ça, Polisionel Aksi en néerlandais, ça veut dire opération de maintien de l'ordre. Il y a eu ces opérations, mais très vite les Néerlandais ont compris qu'ils ne pouvaient pas tenir l'Indonésie. Et surtout, il faut bien comprendre une chose, les Néerlandais n'ont jamais été intéressés par ces histoires de missions civilisatrices, white man's burden, c'était des commerçants. Ce qui est très curieux, c'est que la VOC était une compagnie privée. Si je ne me trompe pas d'ailleurs, c'est peut-être, je pense, la première compagnie par action dans le monde. Et elle a conquis effectivement cet empire immense. Mais on le voit, c'était le privé. Dès le départ, c'était une compagnie privée. Et alors, il y a un esprit VOC qui est l'esprit d'aventure, l'esprit de tout.
Et de profit.
Vous savez, parfois, il y avait des profits de 1000%, en particulier sur la cannelle, je crois, des choses comme ça. Il y avait, si le bateau ne sombre pas en revenant, du Sri Lanka, par exemple, on pouvait faire du profit de 1000%. Alors là, on peut en rêver aujourd'hui.
J'ai l'impression, Philippa Van Loon, que la VOC, la Compagnie des Indes Orientales Hollandaises, c'est un passé que les gens d'Amsterdam et des Pays-Bas en général s'approprient volontiers.
Oui, je dirais qu'il y a quand même deux côtés, parce que le colonialisme n'est pas forcément quelque chose dont on est fier vraiment, mais je pense qu'ils sont fiers d'avoir quand même... étaient forts dans le commerce et avoir construit ce qu'ils ont construit, tout ce qui est relationnel. Enfin, ils ont quand même aussi construit une énorme puissance navale, enfin plein de choses comme ça. Et oui, de ce côté-là, ils sont à nouveau assez pragmatiques. Ils n'ont pas trop de gêne, quoi.
Je pensais aux rêves que ça peut susciter, la Compagnie des Indes, avec des destinations lointaines dont on ne sait pas forcément très bien où elles sont si on n'ouvre pas un atlas, les îles Moluques, Malabar, Coromandel.
Ça fait rêver. Ça fait rêver. Oui, nous, aujourd'hui, c'est plus facile quand même d'aller en avion et en hélicoptère ou je sais pas quoi, mais à l'époque, fallait vouloir y aller quand même. Hein.
Oui, les navigateurs que vos ancêtres employaient partaient trois ans.
Ah, ouais, c'était des gens très courageux, parce que les conditions de vie sur ces bateaux, c'était pas facile. Mais il y avait même des femmes qui partaient. Hein. La fille de Rembrandt est partie. Elle n'est jamais revenue d'ailleurs, mais souvent c'était pour des raisons un peu tragiques qu'on partait. Enfin, je veux dire. Par désespoir, ou on suivait quelqu'un, ou voilà.
Scheurbuik krijg je van een ijsbeer. Maandenlang ijsbeer zonder sinaasappels, kersen of citroenen. We lopen langs het houten huis. Hij zet me neer. Ik stam mijn benen wakker in hun laarzen. Vroeger was de stad van hout. Alle huizen waren van hout. Er kwam een brand en die brand sloeg over rieten daken, door stegen, trappen op. Hij woedde in slaapkamers, in keukens en kantoren. Heel Amsterdam lag in de as. Pap niet zo snel, je klijpt in mijn hand. Elke stap moet tussen de lijntjes. Een vrouw met enge ogen zit op de stoep. Ze wiegt als een yogi van voor naar achter. Haar droge tong als leer uit haar mond. Haar handen graaiend in de lucht. Wat is er met die vrouw? Die heeft zitten Chinezen, denk ik. Zie je die Peking heet? Dat is de beste van Amsterdam. Aan bruin en zonder veren.
Matthijs Rampert, vous êtes poète, philosophe. Le jour est levé depuis une petite demi-heure. Il y a une lumière sublime.
Oui, on connaît ça de la peinture hollandaise. Il y a des grands artistes qui ont... on a vraiment une tradition de... peinture avec seule lumière, des grands ciels avec les nuages, on le voit toujours dans les des tableaux néerlandais, c'est la terre et les maisons sont, ils occupent seulement une petite part du tableau et c'est plutôt le ciel qui est là. Oui, mais c'est aussi la lumière, il est spécial quand c'est un petit peu froid. On voit très clair les choses. C'est très bien. J'aime beaucoup ça. C'est quelque chose nordique, je pense. Le froid, il travaille bien avec la lumière.
Que dit le texte que vous avez lu, Matthijs Rampert?
C'est un texte... qui s'occupe avec l'histoire d'Amsterdam, l'époque avant tout ça, il y avait des maisons en bois et il y avait un grand feu, un incendie et c'est tout brûlé, toute la ville d'Amsterdam est brûlée.
Et c'est un fait historique ?
Oui, c'est un fait historique, oui.
C'était quand ?
Donc c'était au Moyen-Âge, donc vraiment avant Amsterdam était une ville de monde, c'était juste le par là, c'était pas très grand, mais c'était en bois et c'est tout brûlé, donc il reste une maison.
Où sommes-nous et pourquoi est-ce que vous nous avez... demander de venir ici. Et comment y accepte-t-on ? Et est-ce vraiment permis tout ça ?
Ah oui, non, c'est pas permis. Il y a un petit escalier à côté du pont. Et ce pont, c'est un pont au bord de l'ancienne ville. À un côté, on voit l'ancienne ville et à l'autre côté, on voit le port. Ici, on voit un canal avec des bateaux et il y a des gens qui vivent dedans, dans ces bateaux. Il y a des oiseaux, il y a une tour très, très belle.
C'est quoi cette tour?
C'est une ancienne partie du mur de ville. Oui, c'est vraiment Amsterdam, ça. Et c'est ça que j'aime d'Amsterdam. C'est tout cela. Je pense que cet endroit-là, ils ont trouvé un cadavre d'un touriste. C'est peut-être 2 semaines passées et c'est quelque chose qui passe très souvent.
Vous voyez?
Oui, absolument. Il pense qu'il a essayé d'uriner et il était ivre ou quelque chose comme ça et il est tombé. Et il était dans l'eau pendant 2 semaines. C'est aussi Amsterdam, il y a des choses comme ça, des choses fous. On sait par là, c'est le Red Light District.
Le quartier rouge.
Qui
s'occupe de prostitution, oui, essentiellement.
De prostitution. J'aime bien m'assier à un endroit à côté de l'eau pour écrire. C'est quelque chose qui m'inspire quand il y a de l'eau.
Ce sont des oies qui passent.
Oui, oui, ce sont 1, 2, 3, 4, ce sont beaucoup.
Une douzaine d'oies.
On vient ici aussi dans les nuits blanches et on s'embrasse avec des couples de jeunes. On fait ça, on descend ici, on s'assied et on s'embrasse. C'est ça, donc. C'est un endroit vraiment romantique aussi.
C'est le nom de l'écluse là qui est gravé dans la pierre.
C'est le nom du pont. Tous les ponts à Amsterdam, ils ont des noms, mais les gens ne connaissent pas les noms. Donc, ouais. Kickerbill Sluice.
Sluice, c'est l'écluse, non?
Oui, c'est l'écluse, oui. Oui, oui, c'est vrai. Kickerbill, c'est le cul de grenouille. Cul de grenouille. Oui, c'est ça.
Cul de grenouille.
Oui.
L'écluse du cul de la grenouille.
Oui, c'est ça.
Ça alors.
Oui. Oui, c'est drôle, mais je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom. Je ne sais pas.
Maintenant, c'est clair.
C'est bien pour nager, vraiment.
Really?
Là, c'est un peu trop froid pour moi, mais il y a 2 semaines, j'y suis allée avec ma sœur. Elle habite ici et elle se baigne tout le temps. En Hollande, l'eau est toujours froide.
Elle est à quelle température, là, l'eau?
Je pense maintenant 8, 9 degrés, quelque chose comme ça.
Et vous vous baignez?
Oui,
par ces températures-là?
Non, mais moi, j'ai beaucoup de... I have a lot of fat, so...
J'ai pas mal de graisse, je peux supporter. J'aime bien ça. Nous n'avons pas de montagne, alors si on veut vraiment faire de l'exercice sérieusement, c'est bien de nager.
On est au bord de Lay, Suzanne Oxenard. Lay, c'est un bras de mer. On parle de rivière.
C'est pas une rivière. C'est un peu. Actually, c'est une canal. Parce que là. There was before the so-called South Sea.
Avant, c'était soi-disant la mer salée qui débouchait sur la mer du Nord. Mais on a construit cette grande digue. Alors progressivement, l'eau salée est devenue douce. Aux temps anciens, les bateaux, y compris ceux qui venaient au Lloyd Hotel, arrivaient par là, s'amarraient devant, là, sur la rive, en face de l'hôtel. L'idée, c'était que depuis cette partie de la ville, c'est le quartier des docks de l'Est, qui est essentiellement de la fin du 19e siècle, les bateaux arrivaient ici. Et depuis le Lloyd, ils partaient pour l'Amérique du Sud. Et de ce côté, on peut l'entendre dans le nom des lieux, c'est Panama, quai du Suriname, Java. Et à cette époque, et c'est unique aux Pays-Bas, la compagnie Lloyd a construit cet hôtel. Et dans toute la rue, c'était les maisons des gens qui travaillaient sur les bateaux.
You can see there are the houses for the people that work on the ship.
Et ce bâtiment, c'est un supermarché maintenant. Il s'appelle Brésil. C'est l'endroit où étaient débarqués le café et le cacao. Et plus tard, la compagnie s'est dit, bon, on a besoin de plus de monde qui soit prêt à partir pour l'Amérique du Sud. De la main-d'œuvre à bon marché. L'esclavage avait été aboli, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en Europe de l'Est, en Hongrie, en Ukraine, en Roumanie. Ils ont proposé des billets de train pour Amsterdam aux gens, gratuitement. Le train s'arrêtait juste devant l'hôtel. L'hôtel pouvait accueillir 900 personnes. On les examinait pour être certain qu'ils n'avaient pas telle ou telle maladie, auquel cas ils n'auraient pas été autorisés à entrer en Amérique du Sud. Et dans cet hôtel, il y avait des endroits réservés aux femmes, aux hommes, aux enfants. Il y avait une pharmacie, un dispensaire, une maternité. Ce n'est tout de même pas habituel.
Si Amsterdam a toujours été très accueillante pour l'étranger, elle a également été le port d'embarquement d'innombrables voyages sans retour. Les expéditions lointaines n'ont jamais effrayé les Néerlandais. Après tout, ce sont eux qui ont fondé la nouvelle Amsterdam, rapidement devenue New York, dont l'arrondissement de Brooklyn tire son nom de Breukelen, un bourg sur la route d'Utrecht. À 3 stations de tramway de la gare se trouve le Lloyd Hotel, qui est une petite Ellis Island à l'envers. Suzanne Oxenard est aujourd'hui la directrice artistique de cet établissement, creuset qu'elle veut être aussi une ambassade culturelle. Cette grande bâtisse détient sans doute le record de reconversion au cours de ses 100 ans d'histoire. Lieu de départ des émigrants, notamment de juifs de toute l'Europe qui sentaient le danger d'y rester dans les années 30, prison nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, prison pour collabos après cette dernière, prison pour mineurs enfin, jusque dans les années 1980. Et après un long chantier, le Lloyd est enfin devenu cet hôtel aussi joyeux et excentrique que Suzanne Oxenard qui nous y guide. Le Kiswahili est langue véhiculaire en Ouganda, aux Pays-Bas c'est l'anglais.
Nous sommes ici dans le quartier des Docks de l'Est, dans le port d'Amsterdam. Et nous regardons le Lloyd Hotel, qui est très particulier à Amsterdam, unique en son genre, avec ses étages élevés, et qui est isolé des autres bâtiments. Vu d'ici, dehors, c'est un immeuble de forme très symétrique du tout début de l'école d'Amsterdam, et c'est plus ou moins l'architecture néo-gothique.
On entre ?
C'est très marrant, la porte est très étroite. C'est prévu pour des gens qui n'ont qu'une seule valise. Nous sommes dans l'entrée d'origine. Et si vous regardez en haut, vous voyez les vitraux et vous voyez l'histoire du XVIIe siècle, les bateaux sur l'eau.
La ville d'Amsterdam et son port au XVIIe siècle, sans doute.
Oui,
oui, ça a toujours un rapport avec le commerce. Notre position dans le monde se définit comme ça. Notre idée, c'était de faire un hôtel de 1 à 5 étoiles. Je ne vais pas me préoccuper de l'argent que vous avez, je vais regarder qui vous êtes et je vais vous trouver un endroit. Je m'intéresse au bagage culturel de mes hôtes. Nous avons des chambres avec une salle de bain sur le palier, partagée, et nous avons des chambres 5 étoiles.
Redites-moi combien il y a de chambres ici ?
117.
Et il n'y en a pas deux identiques ?
Non.
Voilà une chambre 5 étoiles, très vaste.
Oui, ça fait à peu près 12 mètres de côté, c'est carré. Il y a une grande colonne au centre, un lit très large où on pourrait tenir à plusieurs, on va dire.
On l'utilise pour les mariages, pour les after de fêtes sauvages. Et c'est parfait pour le tango. Et c'est aussi un aspect de mon concept. Si un groupe de 20 étudiants veut venir ici, ils viennent et on y met 20 lits. Et c'est une des seules chambres à avoir sa propre sortie, là, sur le côté. Parce que c'était l'endroit où on gardait l'argent du temps où c'était un hôtel pour les immigrants.
C'est combien la nuit ?
Ça dépend.
Vous savez, je suis la directrice artistique. Je ne sais pas ces choses-là. Je ne veux pas les savoir. Je veux seulement que mes hôtes apportent le plus de culture possible.
C'est plutôt rare qu'un hôtel est un directeur artistique.
Oui, I'm the only one.
Je suis la seule.
Le royaume des Pays-Bas est aussi celui du bon sens, du pragmatisme, de l'efficacité. Cette petite terre potentiellement inondable sera sans doute de ce fait celle qui résistera le plus longtemps au totalitarisme. L'intérêt de tous y est l'intérêt de chacun. Tout ça n'exclut nullement la fantaisie, ni une certaine conception subversive de la citoyenneté. Il n'est pas question de se croire tout permis à Amsterdam. Mais tout de même, on peut y faire à peu près ce qu'on veut, y compris défier la loi, quitte à la faire avancer. Ce sont peut-être ces attitudes qui ont séduit Fouad de la Rouille lorsqu'il est arrivé à Amsterdam, de son Maroc.
Et ici, en fait, il y a une politique très intelligente du logement, en particulier du logement social. Vous savez que Amsterdam, je crois que c'est 60%. 60% de l'habitat à Amsterdam, c'est du logement social. Et vous pouvez aller...
Y compris dans le centre historique.
Mais justement, j'allais vous le dire, le long du canal... Bon, pas partout, le centre historique, évidemment, c'est le centre historique, classé à l'UNESCO, etc. Mais même le long du canal, vous pouvez trouver du logement social. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas mis que des cas sociaux avec des cas sociaux, si vous voulez. En plus, ils ont une idée très intelligente, c'est que quand ils ont découvert du gaz à Groningue dans les années 60, au lieu de se transformer en émirat, et d'aller claquer tout ça à Monte-Carlo, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'affecter une bonne partie de la rente gazière structurellement à la rénovation urbaine. Et ça, c'est très intelligent. Ce sont des détails qui ne sont pas connus, mais quand on les connaît, on comprend pourquoi il n'y a jamais eu d'explosion comme ça, de banlieue qui s'enflamme. Non, ça n'existe pas.
On est sur le Langenstraat, c'est vraiment au plein milieu de Amsterdam, entre le Singel et le Herengracht. Une des premières grandes rues qui a été bâtie.
Rijst Brouwer, amoureux d'Amsterdam.
Et là, les habitants, c'est l'histoire qui est... Parce qu'il y a 10 ans, il y avait trop de voitures, parce que le parking à Amsterdam, c'était pas très cher. Et les gens voulaient rentrer vraiment avec leur voiture au centre. Et ce qu'ont fait les gens, les habitants de cette rue, du Langenstraat, ils ont carrément mis les Amsterdammers, donc les poteaux
en métal,
ils les ont enlevés, ils ont fermé la rue. Et ils ont eu un conflit énorme avec la municipalité d'Amsterdam.
De temps en temps, les habitants se lancent dans une... Action radicale.
Dans un oui, on aime bien les radicaux. Et je pense aussi que la municipalité est ouverte pour ce genre d'action. D'ailleurs, on a vu la même chose quand les bureaux envahissaient le centre d'Amsterdam. Et quand ils n'étaient pas occupés, les gens sont allés squatter les maisons. Après, les squatteurs, en fait, avaient des droits. Parce que... Si tu laissais une maison non occupée et c'était pris par les squatteurs, après pour faire sortir les squatteurs, tu avais un problème. Donc,
On fait d'abord quelque chose d'interdit et après ça devient légal.
Après ça devient légal, effectivement.
Westermarkt overstappen op lijn 13, 14 en streekvervoer. Anne Frankhuis en Frankhuis. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out.
En néerlandais, on dit krakpand.
Oui.
Qu'est-ce que c'est la traduction littérale?
Le mot crack, c'est un onomatopée, un peu. Donc, quand on ouvre une porte, ça fait un son, crack. Et pente, ça veut dire un bâtiment.
Le bâtiment où nous sommes, là, c'est une espèce de porte monumentale.
Oui. D'abord, c'est une porte monumentale construite pour le roi Guillaume II. Et dans les années 70 et 60, c'était en... très mauvais état. Donc ils ont dit, les municipalités, ils ont dit, c'est nécessaire de le détruire.
Ernst van den Hemel, militant du mouvement Schreinheilig.
Parce que l'idée, c'est de construire un grand roue à quatre fois qui entre le centre-ville, comme ça. Et le bâtiment ici, c'était un obstacle, quoi. Donc, ils ont dit que ça doit disparaître. Mm-hmm. Et le quartier, avec les squatteurs, ils ont dit non. Et ils ont occupé le bâtiment. Ils ont dit non, il faut le garder. Il faut le restaurer. Il faut garder ce quartier pour les gens qui habitent ici. Ils ont réussi. Donc, c'est un monument. C'est assez grand, c'est assez luxe comme bâtiment à l'extérieur. Mais les gens qui habitent ici sont des gens avec un revenu moyen. Et donc ça, c'est une des façons que le mouvement squatting, on peut voir l'influence jusqu'à aujourd'hui.
Et c'est très curieux pour nous parce que, en gros, à Amsterdam, il y a eu des époques où des quartiers entiers étaient menacés de démolition.
Oui.
Et ils ont été sauvés par les squatteurs qui s'y sont installés. Tandis que chez nous, c'est le phénomène inverse, vous savez. En général, quand on veut détruire un quartier, on le laisse dépérir,
ouais, ouais.
Puis squatter, et comme c'est squatté, ça devient un prétexte pour la démolition.
Oui, oui, mais en fait, c'était le cas, c'était l'inverse pendant une grande période d'histoire à Amsterdam, mais partout aux Pays-Bas, que les squatteurs, ils ont même fait des réparations, ils ont fait des restaurations des bâtiments eux-mêmes. Et cette stratégie, on peut le voir jusqu'à aujourd'hui. Ils ont vraiment fait une grande influence sur le centre d'Amsterdam. Mais il y a des quartiers entiers qui sont sauvés par des gens qui ont occupé les bâtiments et qui sont dit non, il faut pas détruire tout un quartier pour une rue avec quatre voies.
C'est un mouvement extrêmement organisé et structuré, un peu en perte de vitesse, mais bon, qui a connu son apogée dans les années 80 à peu près.
Ouais, ouais, c'est son début dans les années 60. Et ça a vraiment su en croissance dans les années 70. Et dans les années 80, c'était une sorte de un climax. Il y a un très grand mouvement, mais ça a aussi créé des émeutes, des conflits. Après le Vondelpark, il y a une émeute très connue entre le mouvement du squatteur, qui était très organisé, et la police. Après, il y a aussi une sorte de conflit à l'intérieur du mouvement des squatteurs. Il y a des gens qui le voient comme une stratégie pour créer des maisons pour les gens. Il y a des gens qui le voient comme une stratégie révolutionnaire.
J'aimerais bien que vous m'expliquiez, Ernst van den Hemel, de quelle façon les autorités ont laissé faire.
Pour les gens du 21e siècle, c'est difficile à comprendre. Parce que maintenant, même aux Pays-Bas, le squatting, c'est défini comme un vol. On vole propriété de quelqu'un. Mais en réalité, c'était jamais un vol. On peut pas voler une maison. On peut utiliser, on peut occuper, on peut le changer, mais on peut pas le voler. Mais à l'époque, la municipalité était en accord avec beaucoup des squatteurs. Mm-hmm. Par exemple,
il y a en opposition avec les propriétaires qui laissaient leur logement vide.
Exact, exact. Et pour des dizaines des années, c'était possible si un bâtiment était vide pour plus d'un an. Vous pouvez rentrer, vous pouvez occuper, vous pouvez dire alors je vais l'utiliser jusqu'à ce que le propriétaire trouve une autre utilisation pour l'espace. Donc c'est comme ça que c'était réglé juridiquement. Ce n'était pas illégal, ce n'était pas criminalisé.
Mais on prenait possession du territoire en amenant une chaise, un matelas et une table.
Et une table, oui. Ce sont les trois ingrédients d'une maison. Ce bâtiment ici, c'est une squat légalisée. C'est avec la coopération des municipalités que c'est restauré, qu'il y a des gens qui habitent ici pour un loyer pas trop exagéré. Quoi.
C'est plus tout à fait un squat.
Non, c'est un squat légalisé. Donc à l'époque, c'était squatté. Et maintenant, il y a les gens qui payent le loyer, qui habitent ici.
Un loyer très faible.
Ou pas très faible, normal. Normal, mais en même temps, dans le centre-ville d'Amsterdam, c'est déjà une chose spéciale de payer un loyer normal.
j'ai choisi cet endroit donc, du Westermarkt, qui est au pied de la Westerkerk, dans l'église, qu'on reconnaît bien parce qu'elle a une couronne tout au-dessus, pour plusieurs raisons.
Daniel Bourgois, mémoire du mouvement Provo.
C'est un endroit qui illustre, d'après moi, l'histoire d'Amsterdam, bien sûr, mais aussi bien la tolérance que la subversion, disons, puisque ce sont des thèmes
à aborder,
qui me sont chers, voilà. La subversion, ben, disons, elle était très, très présente dans les années 1965, 66, 67, puisque c'était l'année des Provo. Donc, le mariage de la princesse Béatrice, qui était plus tard la reine Béatrix, a eu lieu ici, donc à la Westerkerk, le 10 mars 1966. Et c'était le théâtre. Elle devait se rendre en carrosse, bien sûr, de l'église jusqu'au palais qui est...
Pas très loin, sur le Dam.
Voilà, c'est sur le Dam. Et c'était vraiment là des émeutes organisées, disons. Il y a eu des bombes fumigènes lancées, là, tout sur le parcours. Enfin, c'était assez impressionnant.
Le mariage a été perturbé.
Le mariage était très perturbé. Elle en a d'ailleurs toujours gardé un souvenir très... un peu noirci, parce que c'était pas vraiment le but de sa journée. Mais bon, les promos étaient là, ils faisaient bien parler d'eux. Donc voilà. Donc ça, c'était la subversion.
Qui étaient les promos?
Les promos, c'était des anarchistes. C'était des anarchistes, disons, de bonne famille, qui voulaient un peu réveiller le bourgeois. L'agitateur, voilà, c'est ça. C'était un peu les précurseurs de mai 68. Ils se sont, disons qu'ils ont influencé pas mal.
Donc ça a été un mouvement relativement éphémère en 65
ans,
et 66.
Oui, à peu près.
J'ai lu quelque part, me semble-t-il, qu'il leur était arrivé de donner du LSD aux chevaux de la garde, de la police montée.
Tout à fait,
sur du sucre.
Oh, ça n'est pas arrivé souvent, mais disons que c'était une des actions ludiques qui leur était tout à fait coutumière, disons.
Qu'est-ce qu'ils proposaient d'autre dans... Il n'y a évidemment pas de programme, mais il y a tout un tas
d'idées. Il y avait un petit programme, d'idées qui sont d'ailleurs curieusement assez contemporaine. Par exemple, leur plan sur la bicyclette blanche, hein, c'était une bicyclette elles étaient peintes en blanc et on les utilisait gratuitement, on les laissait, il n'y avait pas de rien pour fermer, pas de cadenas, et on les laissait comme ça quand on n'en avait plus l'utilisation et on les prenait. Et c'est le Vélib de maintenant, je veux dire. Ils étaient très, très aussi... intéressés et préoccupés par tout ce qui était environnemental.
Mais c'était des précurseurs.
C'était, oui, c'est ça. Ils étaient visionnaires, précurseurs.
Comment vous avez rencontré cette mouvance-là, Daniel Bourgois?
Par un reportage qui était passé à la télévision française en 1965, je pense. C'était 5 colonnes à la une. Et il y avait un reportage sur les Provo d'Amsterdam, qui faisait un tas de choses qui me surprenaient beaucoup. Et je me suis dit, bah, je vais aller voir ça de plus près. Donc, je suis venue en 66, en mobylette.
Depuis
Paris, c'est ça. Donc, et puis après, j'ai rencontré mon mari. Enfin, je suis repartie. Je suis revenue en 68, mais là, définitivement. Mais bon, là, il n'existait plus. Donc
Pourquoi ça s'est éteint, ce mouvement?
Parce qu'ils ont décidé un beau jour que c'était fini, que voilà, il y en avait assez, ils avaient fait suffisamment parler d'eux, et qu'après, c'était un peu à la politique de reprendre certaines idées qui étaient les leurs. Mais c'était vraiment aussi dans cette idée d'anarchie. C'était... On s'éteint tout seul, comme ça, sans avoir de programme, ni continuer une lutte qui, à leurs yeux, dégénérait un peu. Enfin, ils voulaient garder ça comme ça avait été, quoi. C'était un petit peu leur idée.
Ça veut dire qu'il fallait introduire de la subversion dans la société néerlandaise,
l'époque
en avait besoin.
Voilà, c'est ça. L'époque était, à mon avis, tout à fait... bonne pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que ça a eu tant de succès, parce que sinon ça se serait éteint comme beaucoup d'autres choses. Mais non, je pense que c'était bien.
Ouais.
Oui, tout à fait. J'en garde un très très bon souvenir d'ailleurs. de cette époque. C'était très bien.
Un peu de nostalgie.
Un peu de nostalgie, oui. Bon, enfin bon, ça fait 50 ans quand même. C'est... L'histoire a repris ses droits, là.
J'aimerais bien que vous m'expliquiez, Ernst van den Hemel, quant aux émeutes des années 80, notamment celles que vous évoquiez au Vondelpark, qui est ce très grand parc urbain dans le centre d'Amsterdam, qu'est-ce qui les avait provoquées?
Il y a eu un bâtiment autour du Vondelpark, où il y a beaucoup de bâtiments très luxe.
C'est plutôt chic comme quartier.
Plutôt chic, ouais. Ouais, ouais. Et là-bas, il y a eu une propriétaire qui a voulu que le bâtiment soit vide. Il y a eu ce bâtiment est devenu une sorte de symbole du mouvement squatting.
Alors,
j'ai des photos aussi.
Ah bah, je veux bien voir. Ouais.
Attends.
Heeft nationale bekendheid gekregen. Na een vergeefse poging van de politie om het gekraakte pand te ontruimen, waarbij veel agenten gewond waren geraakt, hadden de krakers op alle toegangswegen naar het huis barricades opgeworpen om een nieuwe ontruimingsactie te verhinderen.
En terwijl het Amsterdamse gemeentebestuur
en vertegenwoordigers van justitie en politie in beraad gingen over de vraag wat er moest gaan gebeuren, namen de krakers de kans waar om de barricades verder op te hogen en te versterken.
Et comment on en est arrivé là?
Ze kregen daarbij ongeveer
cette situation. D'insurrection presque.
Oui. C'est aussi une époque où il y a pas mal de gens qui ont vu les développements économiques avec des soucis. Donc c'est les années 80, c'est aussi l'époque punk, c'est l'époque de la guerre froide, c'est l'époque d'une crise économique. Donc il y a pas mal de gens qui étaient mal contents. Mais aussi c'était une espèce d'une subculture, donc c'était une contre-culture qui a créé pas mal de soutien parmi la population. On peut voir les milliers de gens ici.
Il y a du monde.
Oui.
Oh, mais les gens sont masqués.
Cette situation, ouais, c'était un peu compliqué parce que c'était l'année 80.
Ils ont envoyé des blindés aussi.
Oui, c'était parce qu'il y a assez de monde, la police régulière n'a pas réussi à vider un bâtiment et à surmonter les barricades. Donc ils ont demandé des chars, quoi.
C'est du sérieux. On n'est pas habitué à ce genre d'ambiance à Amsterdam qu'on s'imagine si gezellig, comme
oui,
vous aimez à dire.
Gezellig, oui, ça veut dire... En sorte de un bon temps avec tous. Ouais. Non, mais ça, c'était sérieux. Il y a eu pas mal de gens pour lesquels c'était aussi un peu de trop. Donc c'était aussi un moment, une sorte de moment de tournement dans l'histoire du squatting aux Pays-Bas.
Il y a eu vraisemblablement des blessés, non, vu les moyens utilisés?
Oui, il y a eu 50 policiers qui étaient blessés environ. Il y a aussi eu des blessés parmi les squatteurs, oui, parmi les manifestants. C'est un moment que l'histoire tourne un peu. C'est la fin des années 60 et 70, et c'est le début des années 80 où il y a pas mal en situation un peu dure, plus agressive dans les années 80.
Il y a eu l'épisode du couronnement de la reine Béatrix aussi.
Oui. Alors, il y a eu le slogan « Geen woning, geen kroning ».
Mais la traduction serait « Pas de logement, pas de couronnement ».
Exact.
Et là, je pense à cette pauvre Béatrix qui avait déjà eu des ennuis lors de son mariage, 15 ans avant, avec les Provos.
Oui.
À la Westerkerk.
Oui. Pauvre Béatrix, moi je suis pas sûr
contre elle.
Oui, non, il y a toujours s'il y a des moments publics où l'autorité se montre, c'est aussi un podium pour des contestations.
Ouais. De toute façon, la reine, elle est au-dessus de tout ça.
Oui, la monarchie aux Pays-Bas n'est pas très politisée. Plutôt cérémonial.
Elle n'a pas de problème de logement.
Non, exact. Elle a un grand palais au centre-ville. C'était une sorte de image pour le squatting aussi, qu'il y a un palais dans le dôme, le square dans le centre-ville. Et elle n'habite pas. Donc c'est plutôt une sorte de symbole de monarchie. Et il y a pas mal de squatteurs qui ont dit, ouais, mais écoute, elle habite là-bas, donc
on peut s'y installer.
Exact. Mais jusqu'à un moment, ils n'ont pas réussi.
Qu'est-ce qu'on a fait comme trajet là, Matthijs Rampert?
Nous sommes passés le long du Newmarkt, c'est le nouveau marché, une des places les plus anciennes. Et là, il y a De Waag, ça veut dire le poids public. C'est un bâtiment dans lequel il y avait des tas de balances. Et autrefois, ma mère me racontait à chaque fois qu'au Moyen-Âge, on pesait les sorcières pour voir si elles n'étaient pas trop légères.
En daarna liepen we over de Zeedijk. De Zeedijk is de alleroudste straat van Amsterdam.
Nous sommes passés par le Zeedijk. Zeedijk, c'est la rue la plus ancienne d'Amsterdam.
Alle junkies.
Sur le Zeedijk, avant, il y avait tous les junkies, parce que c'est le quartier chinois, le Chinatown d'Amsterdam.
Iedereen stond daar in de portieken.
Tout le monde prenait de l'héroïne sous les porches des immeubles.
Stond helemaal vol met mensen.
Il y avait partout des gens qui prenaient de la drogue.
Il y a quelques années, c'était effectivement ce qu'on appelle la zone Zeedijk.
Oui,
c'était célèbre pour ça aux Pays-Bas. Si tu voulais de la drogue, tu allais au Zeedijk. C'était comme ça. Dans le quartier, il y a même un pont qu'on appelait le Pillenbrug, le pont aux pilules. C'était le pont où on achetait des pilules et d'autres drogues aussi.
La tolérance ici à Amsterdam, ça fait 4 siècles que ça dure. Je veux dire, c'est depuis que les Pays-Bas se sont dégagés, disons, de l'emprise espagnole et qu'ils ont fondé la République des Provinces Unies. C'est devenu un pays, et Amsterdam en particulier, très tolérant.
C'est une marque de fabrique.
Et ça ne s'est jamais vraiment démenti au cours des siècles. Bon, maintenant, la tolérance ici, bon, elle est toujours là, c'est sûr. Mais enfin, ça ressemble davantage, à mon avis, à de l'indifférence, quelquefois, qu'à une attitude très déterminée. C'est un peu, on est là. Le libéralisme a beaucoup d'emprise dans tous les pays en anglo-saxon et c'est devenu un petit peu de chacun pour soi. C'est l'argent qui prime. C'est un peu, il y a plus.
Mais au fond, il y a cette pensée que tout reste permis, enfin qu'on laisse les gens.
Oui,
vivre
on les
à
laisse tranquilles. Voilà, c'est surtout ça. On les laisse tranquilles. C'est un peu ça. Encore une fois, ça peut passer pour de l'indifférence. Bon, on est un peu indifférent à ce qui se passe autour de nous. On laisse faire. Du moment que ça gêne personne, c'est très bien. C'est pas.
Et nu staan we hier op de. Op de Ouderzijds Achterburgwal.
Et maintenant, nous sommes sur l'Ouderzijds Achterburgwal. C'est un des canaux où il y a le plus de prostitution. On voit ici beaucoup de vitrines avec des lumières rouges où sont les prostituées le soir.
On est devant un érotique shop, mais comme il est encore assez tôt le matin, ça n'est pas encore ouvert.
Non,
c'est encore complètement désert. Et ma propre mère a grandi sur ce quai. Et elle me racontait toujours que toutes ces femmes dans les vitrines étaient vraiment très gentilles. Surtout avec les gamins du quartier. Et qu'elles leur offraient tout le temps des bonbons et des choses comme ça. Le soir, c'est noir de monde ici. Il y a des tas de touristes, mais aussi des Néerlandais qui se paient une visite furtive à une dame. On voit des gens qui se querellent, qui fument des joints, qui boivent de la bière. C'est vraiment le chaos la nuit.
Vous percevez ce genre d'activité et la foule que ça occasionne comme une nuisance ?
Non, je ne voudrais surtout pas que ça change. Bien sûr, je me dis que les gens qui habitent sur ces canaux peuvent en avoir marre. Mais moi, je considère que c'est une partie intégrante et très importante de la ville, de l'identité d'Amsterdam. C'est comme dans la chanson de Jacques Brel.
Dans les ports d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent.
Et moi, je ne veux pas qu'ils s'arrêtent de chanter.
Fini de nettoyer la ville, les vestiges de la soirée d'hier.
Oui, c'est ce qui se passe là maintenant. Ça a une certaine beauté. Tous les jours, le quartier redwient tout propre, presque vierge, à peu près vierge. Évidemment, c'est un peu ironique pour un quartier pareil.
Et ce soir, ça recommencera.
Oui, iedere dag opnieuw.
Tous les jours, de nouveau, oui.
Tout est sali, souillé, cassé.
Amsterdam est une ville ancienne, une belle ville, une ville de canaux. Et moi, je m'imagine toujours qu'Amsterdam subsistera encore longtemps et que dans 500 ans, on fera encore des bordées sauvages sur l'Oudezee, Charter Boulevard, et que la vie amsterdamoise authentique existera encore.
Sur la façade du Prins Hendrik Hotel se trouve un bas-relief représentant un trompettiste au visage ridé. Chet Baker, à l'heure de se rendre à son concert, fit une chute mortelle depuis sa chambre située au deuxième étage, le 13 mai 1988. Son fantôme est encore bien présent en ville. L'écluse du cul de la grenouille, avec Daniel Bourgois, mémoire du mouvement Provo, Rist Brouwer, amoureux d'Amsterdam, Matthijs Rampertz, philosophe et poète, Fouad Laroui, essayiste, écrivain et poète, Suzanne Oxenaar, directrice artistique du Lloyd Hotel, Ernst van den Hemel, militant du mouvement Schreinheilig, Philippa van Loon, du musée van Loon. Traduction, Sabrina Lamèche et Lisa Hopp. Doublage, Lydia Benitzrak et Cyril Baer. Merci à Thalys, à Pascal Fila et Jean-Philippe Arnoux de l'Institut français d'Amsterdam, à Roger Streiland de l'Office néerlandais du tourisme à Paris, à Chrissy Masters du Musée des Tropiques d'Amsterdam et tout particulièrement à Claudia Zeller. Coordination Catherine Libert, documentation Catherine Ahmed, prise de son Georges Thau, mixage Bernard Laniel. L'écluse du cul de la grenouille, Villemonde, Amsterdam, Rafik Zénine, Olivier Chaumel.
Avec le jazz de l'américain Chet Baker, les voyages continuent. Balade dimanche prochain de la mer du Nord à l'océan Pacifique, des Pays-Bas aux États-Unis, côte ouest, sur la route de Los Angeles. Rendez-vous dimanche 17 avril à 15h pour Los Angeles-Villemonde, première escale. Une escale cinéma en plein festival du film français là-bas.